Marc Zisman.
Lorsqu'on se retrouve face à un groupe, sur scène notamment, on a plutôt tendance à regarder d'abord, j'allais dire, la tête des musiciens. Mais là, étonnamment, on a plutôt tendance à regarder un petit peu les instruments plus bizarroïdes les uns que les autres qu'on a face à nous. Alors, des guitares un peu carrées, en forme de suppositoire, des sortes de flûtes étranges. On a l'impression en fait de sortir un peu du grenier d'Alice ou de la caverne d'Ali Baba. On va quand même un peu regarder un peu la tête des musiciens. Les musiciens, c'est en fait Hadouk Trio, c'est-à-dire Loy Ehrlich, Steve Sheehan et Didier Malherbe. Et ils sont justement avec nous pour ce podcast pour Cobuz Info. Messieurs, bonjour d'abord.
Salut.
Bonsoir.
Est-ce que c'est une façon de vous cacher justement, soudainement, de jouer avec des instruments depuis maintenant pas mal de temps, qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui viennent un peu des quatre coins du monde? Est-ce qu'il y a une magie, un côté jouet, d'être hypnotisé justement par ces instruments?
C'est le mot, je crois. Hypnotiser, magie, oui, ça me paraît tout à fait indiqué. Non, on se cache pas derrière, on est très passionnellement attachés à nos instruments et qui nous amènent effectivement dans des territoires assez encore inexplorés.
Fusionnesque quand même avec nos instruments quelquefois.
N'est-ce pas ? Fusionnel, oui.
Fusionnel.
Justement, alors certains parlent de jazz nomade. Est-ce que ça fait un peu, c'est un peu une sorte d'étiquette marketing, un peu pochette surprise, ou c'est une formule qui vous conviendrait? Ou quand vous rencontrez quelqu'un justement qui connaît pas votre musique, si vous essayez un peu de décrire ça, vous avez du mal un peu à la définir, ou ça pourrait être un terme qui pourrait...
C'est toujours des termes quand même de marketing pour savoir où placer, dans quelle niche placer les musiciens avec qui. Nous, il se trouve qu'on est dans le jazz, c'est vrai, parce que les musiques du monde maintenant, c'est plutôt les musiques traditionnelles. Donc on est dans le jazz. Donc jazz, jazz world, jazz nomade, c'est pas mal.
Ouais, va pour jazz nomade, allez, tiens.
T'as du son ?
Il lui faudra une bonne aide sur le djembé. Je dis comme ça, sinon ça va faire tout.
Est-ce que ce sont les instruments qui créent la musique, ou est-ce que comment ça se passe? C'est-à-dire que l'univers musical que vous avez, que vous construisez depuis plusieurs années ensemble, est né justement de cette appropriation de ces instruments et de l'assemblage que vous avez décidé d'en faire?
Oui, c'est assez juste. C'est beaucoup les instruments. Il n'y a pas que, évidemment, mais beaucoup les instruments nous mettent sur des rails. Ils ont leur propre, ils ont déjà leur propre histoire, et puis nous, on en tire des choses assez personnelles. C'est beaucoup à partir des instruments qu'on compose tous, soit ensemble, soit séparément. Mais oui, c'est vraiment le moteur, beaucoup les instruments.
Est-ce que justement il y a eu une sorte de phase un peu d'expérimentation au début, de se dire tel instrument avec tel autre instrument pouvait donner? Ça s'est fait progressivement, en tâtonnant? Est-ce que vous avez tout de suite eu des certitudes par rapport à ça? Comment ça a évolué?
Nous, on se connaît depuis longtemps, et déjà avec Loy, on a commencé le groupe avec Ajouche Doudouk, ce qui correspond d'ailleurs au nom d'Hadouk, puisque Steve est venu, il a été présent sur le premier album, mais il a été, disons, à part vraiment prenante sur le deuxième album, hein, c'est-à-dire l'album qui s'appelle Hadouk, c'était donc le premier. Et sur le chat animal, voilà, il était plus à part entière. Sinon, Ajouche Doudouk, c'est vrai que c'est déjà un petit peu une base, c'est-à-dire Ajouche, l'instrument, le gumbri basse de Loy, et le doudouk arménien. Donc on s'est déjà basé au départ, il y avait déjà cette toute première fusion, et ensuite ça, on a été dans toutes sortes d'autres instruments, évidemment.
On aurait pu aussi appeler le trio après Baladouk, parce que là on parlait d'Ajouche Doudouk, mais il y a des ballets de Steve qui sont très emblématiques. Et Steve est un maître des ballets, il peut en parler, mais en tout cas on aurait pu appeler le groupe Baladouk, effectivement, si on avait commencé tous les trois vraiment ensemble.
En plus, ce sont des ballets d'Yaghilev, qui sont quand même des ballets assez spéciaux. Non, c'est des ballets berbères. C'est des ballets berbères. Mais j'aime bien les musiques de ballets, en fait, de temps en temps, j'aime ça. C'est vrai que dans mon petit cosmos d'instruments, il y a ces ballets berbères qui sont importants, ouais, qui ont un son, qui ont une touche, une patte. Et dans Hadouk, ils ont vraiment fermé cet univers rassurant au niveau de nos sons. Il y a vraiment le Ajouche, le doudouk, les ballets. Après, il y a tous les autres instruments. Loy est un maître du piano africain ou de la kora, ou Didier du bansuri, ou... Moi, je joue du hang ou des instruments un peu différents. Donc, c'est vrai que, comme disait Loïc, il disait tout à l'heure, les instruments nous amènent à créer dessus selon ce qu'ils nous proposent ou nous permettent. Quoi. Et chaque instrument a un peu son univers, son cosmos, ses possibilités, ses gammes. Donc voilà, ou ses modes.
Notamment parce que ce sont des instruments, comme n'importe quel instrument, qui a une sonorité typée, avec un héritage musical typé, qui vient de... et vous arrivez, vous, avec vos personnalités musicales, avec votre héritage personnel, que vous essayez, j'allais dire, de vous avez évoqué le mot fusion, mais de fusionner cet instrument que vous avez choisi, avec justement votre... Donc, comment ça se passe justement d'essayer de quitter l'héritage musical traditionnel de tel et tel instrument, et de le ramener dans votre univers à vous? Ça se fait progressivement? Comment ça... fonctionne.
C'est en même temps difficile et facile, c'est un petit peu les deux. Je pense que du fait qu'on on fait un petit peu l'impasse sur la tradition, ce que l'instrument a vécu,
le dogme, tradition, le dogme.
On a pas.
Ça se casse facilement ou c'est comment ça? Enfin, on s'en éloigne facilement.
Oui,
si
mais
on le veut, oui.
Oui, oui, mais tu vois, il y a beaucoup de musiciens qui vont apprendre des tablas, ils vont aller faire 7 ans de travail en Inde, ou la flûte, ou je sais pas, ou le djembé, ils vont passer... Bon. Nous, on n'est pas vraiment ce genre de musiciens, on s'approprie l'instrument, on fait un petit peu l'impasse sur l'apprentissage traditionnel, mais par contre, là, évidemment, on doit trouver... Alors, on trouve notre propre chemin, et quelque chose de personnel. C'est un peu notre démarche commune à tous les trois, et qui fait un petit peu le son de Hadouk aussi.
Je crois que la musique le permet, enfin, il y a une tolérance inhérente à l'esprit de la musique qui permet qu'on ait cette démarche aussi. Quoi. On est à une époque où on peut un petit peu dépasser justement les dogmes ou les disciplines caractérisées ou avec un enseignement bien précis et tout. Je pense qu'on peut se libérer de ça, ça vaut la peine.
Est-ce que tout ceci a une influence sur votre écriture, sur la façon dont vous composez? C'est-à-dire, est-ce que... tel instrument, telle combinaison d'instruments a un impact sur la manière dont vous écrivez ou pas spécialement?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait justement. C'est que chacun de ces instruments ont plus ou moins un mode et donc on étend ce mode, on l'agrandit et donc on joue toujours entre les possibilités inhérentes à l'instrument qui nous appellent évidemment vers la musique traditionnelle, des morceaux qui ont déjà été trouvés sur ces instruments et notre propre passé et imagination musicale. Musical qui a commencé avec d'autres instruments, mais qui donc peuvent se mélanger avec la première attitude. Il y a deux attitudes.
Comment vous voyez votre musique par rapport à le studio, la scène? Est-ce que l'un est complémentaire de l'autre? Sont deux choses différentes? Comment ce trio pour vous évolue par rapport à ça?
Ah bah la scène, évidemment, on aime bien faire de la scène. Le dernier disque, là, Baldamore, est un album live qu'on a enregistré sur deux jours, au mois de mai de l'année dernière. Et évidemment, il ne faut pas se tromper. Il faut que tout soit bon, évidemment. Par là, c'est un peu plus difficile, un disque live. Un disque en studio, on joue, ceci dit, en studio, on joue dans des conditions quasi live. Mais on a quand même on travaille quand même un petit peu avec filet, à savoir que si on est quand même isolé, c'est-à-dire que s'il y a un gros pain ou quelque chose qu'on veut changer, on peut toujours le changer. Mais c'est quand même très live, très, très joué, comme s'il y avait un public dans le studio, finalement.
On est plutôt des musiciens de scène quand même, en tout cas par rapport à Hadouk. Sur Hadouk, hein, je parle parce qu'on fait aussi du studio, mais dans la mesure où souvent, vraiment le morceau prend du poids après un an, deux ans de scène, c'est souvent quand on enregistre a priori un morceau sans l'avoir joué sur scène, quand on le réécoute deux ans après l'avoir joué, il y a quand même une grosse différence. On est ce genre de compositeur ou ce genre de créateur, on a besoin, je crois, de la scène, de s'exprimer pour justement faire évoluer le morceau de manière positive.
Thank you. envie permanente, pas presque une gloutonnerie, j'allais dire, par rapport aux instruments. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous découvrez des nouveaux sons, des nouveaux instruments, d'essayer justement de voir comment tel nouvel instrument peut intégrer l'univers d'Hadouk.
On est un peu boulimique déjà, et donc je crois qu'on essaie plutôt en l'occurrence moi, de me réfréner, parce que c'est difficile de jouer trop d'instruments et bien. On en a déjà 3 ou 4 chacun, qui demandent beaucoup de travail. Mais bon, on a cette tendance, on adore les instruments de musique, mais c'est plus sage quand même de pas trop...
Vous êtes un peu quoi, comme les enfants dans un magasin de jouets, quand vous retrouvez dans certains endroits.
C'est justement un petit peu ça, c'est que sinon ça devient un petit peu le bazar. Quoi. Et chacun de ces instruments a besoin d'énormément de temps et de travail. Sinon, c'est un peu de l'amateurisme. Et comme on n'a pas justement un gourou sur ces instruments, on est notre propre gourou sur cet instrument. C'est-à-dire qu'on invente et ça demande encore plus de travail et une certaine rigueur. Donc évidemment, on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre d'instruments. Bon, ceci dit, on a quand même des familles d'instruments. Au niveau des percussions, Steve, c'est certain qu'il peut se permettre de trouver des inventions extraordinaires du monde entier. C'est toujours bon dans le domaine de la percussion. Moi, je suis saxophoniste au départ. Après, la flûte indienne, et donc le doudouk, pour moi, répond à tout ce que j'avais envie d'écouter en écoutant un instrument avant. Et donc le doudouk, le ken, l'orgabouche du Laos, la flûte en bambou, voilà, un petit peu de saxophone encore, et puis 2-3 petites flûtes que je joue et qui sont un peu différentes. Là, en ce moment, par exemple, je me suis branché sur le flageolet, c'est une flûte du 19e siècle occidental que très peu de gens jouent. Bon, c'est vrai qu'on est tenté, mais c'est quand même dans une même famille d'instruments, naturellement.
Moi, j'ai tendance un peu à essayer d'améliorer les instruments, par exemple. Ça, c'est plutôt que d'en rechercher d'autres, de leur trouver... Voilà,
de customiser un peu.
Oui, enfin, par exemple, je joue un instrument que j'ai appelé le goumba. C'est un mélange de goumbri, l'instrument des Gnawa marocains, avec une basse. C'est un instrument original et bon, c'est une manière de d'enfoncer un peu le clou dans mon travail sur ces instruments et de faire évoluer un peu l'instrument. J'aime bien cette idée de faire évoluer les instruments de musique.
Une boulimie aussi un peu
Oui, une boulimie, un plaisir. Je suis toujours prêt à me laisser emmener par un nouveau son, une nouvelle matière, parce que j'aime bien, c'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans ce trio, c'est qu'on aime le bois, on aime le fer, on aime la terre cuite, il y a vraiment une dimension ludique dans l'approche, puis, comme disait Loïc tout à l'heure, avec le temps après, de maîtrise et de discipline, qui est vraiment agréable, quoi. Et quand on connaît vraiment bien, une fois qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien l'instrument, il reste une étape qui est un peu plus loin, qui est le fait de le maîtriser vraiment bien et se rendre compte qu'il y a une autre dimension encore dans l'instrument. C'est ce qui se passe quand j'écoute l'œil et la cora, ou peut-être moi, maintenant, je commence à approcher le hang d'une façon que je le maîtrise, et j'arrive peut-être à une dimension où je peux peut-être maintenant essayer de trouver encore d'autres harmoniques, d'autres façons de l'approcher. Bon, bah, c'est pareil avec tous les instruments, quoi. Même avec les balais, qui ont l'air très sobres ou simples, ou désuet, mais pourtant on peut devenir vraiment très raffiné avec. Donc il y a plusieurs strates, c'est une musique qui demande de la patience et du temps quand même aussi. Mais initialement, il y a un côté ludique, et tant mieux, je veux dire, tant mieux si on est encore un peu enfant. Moi j'aime ça, c'est délicieux. Quand on se retrouve je sais pas où, qu'on trouve là, récemment on était à New York, j'ai trouvé une cymbale découpée, j'étais trop ravi de l'amener dans le trio et de voir le son qu'elle amène, ou un coup d'archet sur une cloche que j'aurais trouvé je sais pas où. Bon, bah, c'est un peu ça aussi le trio, on a du plaisir. Didier qui arrive avec des nouvelles toupies qui font des lumières dans tous les sens, et des notes et des accords, c'est génial, quoi. Et l'œil par-dessus fait une harmonie complémentaire, et c'est quand même bien ça, c'est assez rare. J'aime bien cette démarche.
Vous avez tous les trois d'impressionnants CV à rallonge, avec des collaborations délirantes dans tous les domaines. Je pense qu'on... On ne citera pas les 3 CV en question, parce que ça prend pas mal de temps. Comment chacun vous placez un peu l'aventure Hadouk dans vos parcours personnels? Quel moment elle arrive? Quelle place vous lui donnez?
Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les années 70 avec Gong. C'est ma principale référence, je dirais, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec ce groupe et énormément tourné, c'est vrai. Et puis ensuite, comme je jouais surtout le saxophone à l'époque, et même après le WX7, c'est-à-dire des instruments électroniques, j'ai eu dans les années, milieu des années 80 à peu près, un retour au son acoustique, un désir de son acoustique, et un désir d'écouter des sons beaucoup moins forts. Côté basse électrique et batterie, qui correspondait à mon saxophone, qui était d'ailleurs un gros saxophone, c'est le saxophone ténor, le saxophone du rock, on peut dire. Mais j'ai changé radicalement d'optique à tel point que je ne joue plus de saxophone ténor du tout. Et donc, c'est a été vers une diminution du volume et pour une certaine sensibilisation, un certain raffinement dans. Et alors, le Doux s'est présenté là, à ce moment, justement, pour faire un grand changement dans ma vie. Et avec, on s'est rencontrés et donc on a créé à Doux un peu parce qu'on avait tous les trois ce désir un peu de créer une musique un peu soft, un peu très agréable à écouter, plaisante pour l'oreille quand même. C'est très important les sons. Que les sons aient une sensualité peut-être plus grande que des instruments qui tapent plus fort. Voilà, ça c'est un grand besoin qu'on a eu et que j'ai eu moi-même dans les années 80 par rapport au Grougon qui jouait quand même très fort.
Puis Doux, c'est un peu la maîtresse qui devient la régulière en fait aussi, je trouve. Non, c'est vrai quand j'y pense, parce que c'est un peu en dilettante, c'est un peu comme la demoiselle au départ, et puis finalement c'est un joli tronc, quoi. C'est quelque chose qui nous assemble et qui nous. Il y a quelque chose qui est en train quand même de faire des racines, quoi.
C'est vrai qu'on l'a fait au départ. On l'a fait de manière très très ludique et puis on a chacun des activités à gauche à droite et bon c'était un peu une soupape pour nous soit pour ceux parce qu'on a fait bon on a été souvent sideman de gens importants donc c'est quand même pas la même bref c'était un projet qu'on a fait sans se prendre la tête sans plan de carrière et c'est vrai comme dit Steve petit à petit à force de persévérer on a un peu imposé un peu un son c'est un petit peu imposé dans le paysage. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on ça commence à prendre un peu du poids.
Le public sent aussi une certaine douceur dans les sons, une sensualité dans les sons. C'est une des raisons, je crois, pour lesquelles ils achètent nos disques aussi.
Et vous pensez justement le fait qu'il n'y ait pas eu de pression, finalement, qu'au début c'était un peu une sorte de side project tranquille, finalement ça vous a permis de mieux vous trouver, de mieux et que ça, sans pression, vous
avez devenu. Probablement, je suis d'accord avec vous.
Une certaine easiness, une certaine coolness, on peut dire. Enfin, j'ai trouvé un mot français qui correspond un peu mieux, mais disons quelques. Je crois que le public apprécie, oui, c'est pas une prise de tête, disons, voilà.
Oui, puis aussi, quand on veut faire un truc rapidement, quand on dépend d'un groupe pour vivre, on veut essayer de s'accrocher un peu à tout ce qui se passe, à l'air du temps, etc. Nous, non, on a poursuivi notre petit chemin tranquille. Au début, on est passé inaperçu pendant très longtemps. Puis finalement, à force d'insister, on a rejoint, mais on n'a pas. On a pu se permettre ce luxe parce qu'on faisait d'autres choses aussi et qu'on avait. C'est un petit peu. Voilà.
Est-ce que vous avez toujours envie, justement, au contraire, vous êtes encore plus motivé par cette aventure ? C'est-à-dire que vous regorgez d'idées, vous avez des. Ça fusionne dans vos têtes
pour longtemps ? Oui, il n'y a pas de raison. Non, mais vraiment, c'est vrai.
C'est-à-dire, internationalement aussi, on a quand même. On commence à tourner pas mal, et puis on a un très bon public en France, on est absolument ravis. Bon, ça commence à venir un peu à l'extérieur, on joue pas mal en Allemagne, on a des bonnes distributions de disques au Canada. Ça commence
Japon,
un peu à venir.
Au Brésil, on va aller.
Oui, le Brésil, bientôt.
On a surtout envie de
s'expatrier pour de tester un peu les publics. Un peu. Ça marche très bien aussi, surtout de toutes sortes de pays. Il n'y a pas de raison. C'est justement une musique un peu universelle, comme ça, dans la mesure où c'est world music. Donc, on peut espérer que ça fasse le monde.
Une petite récompense, on a quand même fait beaucoup des clubs parisiens et les villes de France, enfin pas toutes, on est content de continuer, mais c'est vrai qu'on commence à avoir quelques opportunités à l'étranger, dans des pays sympas, pour nous c'est sympa.
Des envies également de rencontres, c'est-à-dire de voir comment l'univers d'Adouk peut fonctionner avec des invités, avec d'autres formations, d'autres musiciens.
Ça, on a toujours eu ça.
Oui, on a toujours fait ça. Hein. Tout depuis le premier disque, il y a toujours eu chaque disque, il y en a un ou deux invités.
Et... déjà moi, à la base.
Le premier invité au départ. Oui.
Steve était notre premier invité.
C'est incrusté.
Brièvement.
Mais là, vous en débarrassez.
Je me suis dit, merde, il y a une niche.
Et alors, des envies, justement, dans le futur, éventuellement, de collaboration
Des danseuses, j'aimerais bien, blondes, scandinaves. J'aimerais beaucoup.
Sur les ballets de Diaghilev.
Exactement.
On va être concert aussi sur les stations spatiales orbitales. Là, on est branché pour faire le premier concert planétaire. Ouais, enfin bon, ça, on n'en dit pas plus.
Mais c'est vrai, pourquoi pas, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et... Non, on fait des créations, là, on en fait une à Lyon, il y aura un musicien sibérien qui vient, un maître Gnawa. À la rentrée, on va faire des petites choses avec des musiciens Touareg. Petit à petit, vraiment, Adouk peut se permettre d'inviter ou de découvrir ou de se faire découvrir par notre ensemble. Même ce qu'on va vivre ce soir avec Ibrahim Malouf, je trouve ça super. C'est merveilleux d'arriver à ce moment-là, où le désir est partagé, c'est pas que nous qui cherchons à... C'est qu'il y a une envie qui est un petit peu dans tous les sens, voilà. C'est passionnant.
Bon, bah donc je pense qu'on se donne rendez-vous sur la station ouais, orbitale pour un prochain album.
Moi, c'est Mir.
La même, d'ailleurs. Les Chinois, bientôt.
C'est le programme chinois, mais ça, c'est top secret.
Là, pour ouais, faut pas
d'accord,
en
on n'en parlera pas, alors. Donc rendez-vous sur la station orbitale.
Les Américains, ils ont détruit une partie de tout le côté où il y avait le studio où on devait être, avec les filles. Là,
c'est le studio portable qui s'est cassé la gueule. Ouais.
Merci à Doug Trio.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.